Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour, bienvenue dans Libre Débat, comme tous les mercredis de 16h30 à 18h. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un podcast qui a été réalisé lors des rencontres intermutuelles à Paris l'année dernière et qui a été diffusée sur la web radio Radio Galoche. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et en espérant que ça vous inspire.
Salut, vous écoutez Radio Galoche ou Radio Carnaval pour une émission iconique sur la mutualisation de thunes et de ressources. Le lieu qui nous accueille là, c'est la Flèche d'Or, une salle de spectacle historique occupée depuis août 2020 par un collectif qui en fait un espace de vie non marchand, culturel et politique, par et pour le quartier et les luttes sociales, notamment celles des groupes minorisés.
Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de différentes formes de mutualisation, financières et autogérées, ou système de tontine, c'est-à-dire des organisations plus ou moins pérennes, dont le but est la mise en commun et le partage de ressources, particulièrement de thunes de revenus, d'économies ou d'actions de collecte comme des caisses de grève ou des cagnottes, par exemple. L'objectif de l'émission, c'est se faire réfléchir ensemble à comment s'entraider matériellement, par la thune particulièrement, en diffusant des témoignages axés sur les pratiques de personnes qui tentent ce genre d'expérience. Aussi convaincre celles et ceux qui nous écoutent de se monter en mutuelle, de créer collectivement des tontines et des caisses de lutte, parce que ça a des effets puissants. Et il n'y a pas besoin d'être syndicaliste chevronné, ni d'attendre le grand soir ou la fin du monde. Attention, vous vous apprêtez à entendre un contenu de propagande explicite et inflammable.
On est en direct du jour 2 de rencontre intermutuelle qui se passe ce week-end, 8-9 avril 2023, entre le squat La Kunda à Vitry et la Flèche d'Or dans le 20e à Paris. Ça réunit une soixantaine de personnes qui sont membres de groupes de gens qui mutualisent dans plusieurs endroits en France et en Belgique. À Lille, la mutuelle de Rennes 1, Rennes 2, Marseille 1 et Marseille 2, à Saint-Étienne et Saint-Julien-Moulin-Molette, à Bure, à Lyon, Montpellier, plusieurs mutuelles Paris-Banlieue, au squat La Kunda à Vitry, Bruxelles 1 et Bruxelles 2, le collectif NWAR à Nantes, une tontine de personnes noires adoptées. Et on connaît d'autres gens encore qui n'ont pas pu venir mais qui mutualisent à Toulouse, puis à Grenoble et à Dijon, pour ne citer que ces villes. Hier, on s'est fait plusieurs ateliers sur qu'est-ce qu'on fait des économies et du patrimoine dans nos mutuelles, sur la débrouille administrative, sur une coopérative uruguayenne qui s'appelle OGT. Il y avait une auto-enquête rapport queer au travail et à l'emploi, un atelier pour coder les redistributions de thunes, un atelier utopie réaliste et toi, tu ferais quoi avec un salaire à vie ? Puis un atelier créatif pour faire un kit de base, crée ta mutuelle en 10 étapes, qui sera prochainement accessible dans vos meilleurs infokiosques.
Mais d'abord, pourquoi ces rencontres ? Cet été, aux UEH, a eu lieu un atelier appelant les membres de mutuelles ou les personnes intéressées à se retrouver pour échanger autour de nos pratiques, fonctionnement de mutualisation et partage, redistribution, collecte d'argent. Les UEEH, c'est les universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités. C'est un événement LGBTI pour et par des lesbiennes, gays, bi, trans et personnes intersexes et féministes et autogérées. Sa vocation est internationale et cet événement a lieu presque tous les ans depuis 40 ans. À l'issue de cet atelier, on s'est dit qu'on allait organiser des rencontres intermutuelles pour avoir plus de temps pour discuter et faire qu'il y ait toujours plus de mutuelles qui se créent.
En abordant le thème des mutuelles, on a clairement conscience de ne pas réinventer la dynamite. Il existe plein d'expériences diverses de mutualisation et qui ont produit des ressources qu'on vous invite fort, fort à consulter. Deux épisodes sur Radio Galoche, une émission spéciale sur Radio Dio, dans l'émission Comme un ouragan. Bientôt un podcast de la Mutuelle de Lille, la brochure de la Mutuelle de Lyon dispo sur infokiosque.net, sur lequel il y aura bientôt la brochure d'une des mutuelles de Paris banlieue. Ces expériences s'inscrivent dans une histoire longue de principes et pratiques mutualistes autogérés ou de systèmes de tontines au sein des diasporas d'Afrique de l'Ouest et sur le continent. Dans le cas français, ça renvoie à l'histoire des mouvements ouvriers et anarchistes avec l'émergence des sociétés de secours mutuels au XVIIIe siècle qui consistent à s'entraider par cotisation et redistribution entre membres face au risque du travail et de la vie, les maladies, l'infirmité, les accidents du travail, le chômage, les décès et plus tardivement les retraites. Ces sociétés de secours mutuels, elles font face à une répression forte car elles constituent des foyers d'auto-organisation des travailleuses qui se passent bien volontiers de la charité chrétienne et du paternalisme bourgeois. Elles sont considérées comme subversives dès 1791, Louis XVI n'est pas encore guillotiné, il y a une loi, Le Chapelier, qui interdit ce type de groupement professionnel. Au moment du Second Empire, qui est un régime très libéral, entre 1852 et 1871, l'État va chercher à distinguer des sociétés de secours mutuels disposées à s'intégrer au capitalisme et à collaborer avec l'administration d'État, des mutuelles anarchistes qui vont être interdites. Au cours du XXe siècle, se développent les systèmes publics de protection sociale par assistance et par assurance, notamment après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui produisent des milliers et des milliers de mutilés, de veuves et d'orphelins. L'État se retrouve obligé, s'il veut acheter la paix sociale, de s'emparer un peu des questions de soins. Aussi, au cours du XXe siècle, il va y avoir un conflit très fort entre un État qu'on va appeler État social, qui cherche à contrôler le système de santé sans trop investir financièrement, et en préparant le terrain pour que le capitalisme s'empare notamment de la production de soins à grande échelle, les hôpitaux, qui vont avec le développement des cliniques privées par exemple. Et en même temps, des tentatives des travailleuses elles-mêmes d'avoir le pouvoir de décider de l'organisation du travail, des outils de travail et de production et du financement de la sécurité sociale. C'est notamment un conflit qui va être très fort après la Seconde Guerre mondiale en France, avec les résistants communistes qui vont porter la question de l'autogestion de la sécurité sociale. C'est pour ça que derrière toute question de mutualisation d'argent et de ressources, derrière les questions de la production du soin et de son accès, il y a des questions de pouvoir. Pouvoir au sens de domination, d'abord la domination de l'État. Est-ce que c'est souhaitable de laisser à l'État le contrôle sur nos vies? Est-ce que ça marche en contexte de pandémie planétaire, par exemple? Pouvoir au sens de capacité d'agir collective et populaire. Si on n'est pas satisfaite par l'État, comment on crée de la puissance ensemble pour s'en sortir? Et pouvoir aussi au sens de rapport de pouvoir au sein des dynamiques qu'on crée pour s'organiser. Et du coup, comment on fait pour fonctionner de manière non hiérarchique et non oppressive en termes de race, de genre, de classe, de validisme et d'âge?
Dans le contexte actuel de mouvement social contre la réforme des retraites, mais aussi contre la loi Darmanin qui vise à toujours plus exploiter et réprimer les personnes exilées, ou encore la loi Casbarian qui est une loi anti-squat, et plus globalement contre ce gouvernement, ceux qui l'ont précédé et ceux à venir, il nous semble tout à fait pertinent de parler de mutualisation de nos luttes. Parce qu'on pense que c'est un moyen pour qu'une lutte soit efficace et dure dans le temps, que le plus grand nombre de personnes puissent s'y investir, sans avoir à sacrifier leurs revenus. Aussi parce qu'on croit à la force du collectif et que de toute façon, le partage des ressources, c'est déjà souvent pas une option parmi les gens qui galèrent. On se trouve en ce moment face à l'attaque des retraites et du revenu de solidarité active, entre autres, et en général la casse des services publics ou la capitalisation de la production du soin avec le développement des cliniques privées, des mutuelles de santé lucratives, etc. Tout ça, ça nous pousse à nous organiser nous-mêmes pour notre survie et une vie meilleure. Et puis, il y a aussi un truc de calendrier marrant, c'est qu'une mutuelle à Lyon, qui est devenue un peu la mutuelle de référence, notre mère à tous, après avoir sorti une brochure best-seller à prix libre, s'est créée en 2012, à la suite du mouvement contre une précédente réforme des retraites en 2010. Bref, comme les planètes, tout s'aligne, nouvelle réforme des retraites, l'occasion de créer de nouvelles mutuelles.
Concrètement, pendant ce plateau radio, on va se demander pourquoi et comment mutualiser un maximum de ressources avec un maximum de monde. Et aujourd'hui, on vous propose deux moments de discussion de 45 minutes. Rassurez-vous, il y aura une entracte d'environ 20 minutes au milieu, entracte musicale et l'occasion de se restaurer au bar.
On est de retour sur Radio Galoche ou Radio Carnaval avec le plateau 1 des plateaux radio de ces rencontres intermutuelles édition 1. Pour ce plateau 1, on va discuter des mutuelles de thunes qui sont, dans notre définition, des collectifs de mutualisation mensuelle de revenus et d'économies. Pour parler de ça, on va être avec trois intervenants et intervenantes qui font tous partie de collectif de mutualisation. À ma droite, Clémo, est-ce que tu veux te présenter?
Alors, je fais partie d'une mutuelle qui se situe entre Paris et la banlieue parisienne.
Ouais, moi c'est Mathéo et je fais partie d'une des deux mutuelles qui existent à la santé.
Et moi c'est Célé et je vais vous parler d'une tontine en création en mixité noire adoptée.
Donc, premièrement, je vais vous demander de présenter un petit peu vos groupes, à savoir comment vous vous êtes retrouvés à faire ce projet ensemble. Ça peut être qu'est-ce qui a déclenché la création de cette mutuelle de thunes entre vous. Est-ce que vous êtes partis sur des liens affinitaires, professionnels, communautaires, politiques? Je vous laisse un petit peu développer là-dessus. Est-ce que, Mathéo, tu veux commencer pour la mutuelle de Saint-Étienne?
Ouais, alors moi, j'étais pas du tout à la création de la mutuelle, parce que j'habitais pas à Saint-Étienne à cette époque-là. Mais suivant les personnes, elle a été créée en 2017 ou 2018, plus personne n'est très sûr. Je crois qu'il y avait déjà plusieurs personnes à la santé qui en discutaient, et ça a été réellement lancé quand des personnes de la mutuelle de Lyon, du coup, qui existait déjà depuis quelques années, sont venues vivre à Saint-Étienne. Du coup, elle a été créée sur les mêmes bases, un peu le même fonctionnement au départ que celle de Lyon. C'est une mutuelle mixte et non affinitaire, à grosse majorité de personnes blanches. C'est plutôt des personnes qui se connaissaient quand même un peu des milieux militants, qui se retrouvaient sur des bases anticapitalistes et anti-autoritaires. Et c'est plutôt toujours le cas aujourd'hui. Ce qui est un peu particulier du coup dans cette mutuelle, c'est que c'est pas que des personnes de santé, c'est aussi des personnes du PILA. Et du coup, le PILA, c'est la montagne à côté de Santé. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui habitent un village qui s'appelle Saint-Julien-Moulin-Molette et d'autres personnes qui habitent une petite ville qui s'appelle Annonay. Et du coup, ça fait que ça regroupe des personnes qui vivent en ville, mais aussi des personnes qui vivent à la campagne. Et du coup, qui sont dans des réalités matérielles aussi un peu différentes, quoi. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, on a été jusqu'à 25 personnes, mais il y a la volonté de pas dépasser 25 personnes. Parce que pour nous, cette mutuelle, c'est mutualiser de l'argent et créer des réseaux de solidarité, mais c'est aussi hyper important pour nous d'avoir des moments de discussion de fond autour de notre rapport à l'argent, des rapports de classe, et tout ça. Et du coup, on trouve que 25 personnes, ça fait déjà un gros groupe pour discuter de ces questions-là. Du coup, au moment où on était 25, il y avait des personnes qui ont voulu nous rejoindre. On s'est plutôt dit qu'on avait envie d'aider des personnes à créer d'autres mutuelles que nous continuer à grossir, quoi. Voilà.
Merci. Clément, est-ce que tu veux rebondir avec la présentation de la mutuelle de Paris banlieue?
Alors, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, c'est une mutuelle transpédéguine qui a débuté à l'automne 2019. Enfin, les discussions ont débuté à l'automne 2019. C'était un groupe de travail qui s'est constitué dans les AG queer vénères qui ont commencé à exister après un cortège queer pour un 1er mai. Après, en fait, la mutuelle a continué son chemin hors des AG queer vénères. Il y avait un peu la volonté de se dire comment est-ce qu'on partage de la thune sur la durée, hors des cagnottes. Aussi, l'idée de se dire qu'est-ce que ça veut dire militer ensemble sans parler des questions de thune et sans mettre un petit peu ça au centre, sachant qu'il y a des dynamiques de pouvoir liées à ça. Et aussi, l'idée que finalement, il y a de l'argent dans nos milieux, en fait. Donc, il y a eu plusieurs phases de discussion. Une première redistribution test en février 2020, juste avant le Covid, avant le confinement. Et le confinement a après un peu précipité les choses. Peut-être j'y reviendrai plus tard. Pour parler de la constitution de la mutuelle et des liens entre les membres, il y a quand même plutôt un fonctionnement affinitaire puisqu'on gravitait dans les mêmes milieux. Il y a pas mal de personnes qui viennent de la même université parisienne. On est ouvert. Pourtant, mais dans les faits, ça fonctionne par cooptation. Du coup, c'est une mixité transpédéguine plus meuf cis hétéraracisée, ce qui est le compromis à la suite de discussions sur est-ce qu'on peut ouvrir aux meufs cis hétéra, avec des avis divergents. Et on est une vingtaine de personnes, sachant que tout le monde ne participe pas tout le temps aux réunions qui ont lieu tous les deux mois. Il y a une majorité de personnes blanches et on reste principalement en Île-de-France, même si des membres ont déménagé.
Merci. C'est Lem, je vais te donner la parole pour présenter ta tontine qui est un fonctionnement un petit peu différent, il me semble. On t'écoute.
Du coup, avant de commencer, je peux expliquer ce que c'est une tontine, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. Moi, je qualifierais ça, et d'autres qualifieraient ça, d'un système d'épargne collectif, et du coup, un système qui permet de mettre de côté des grosses sommes d'argent et de les partager à des moments particuliers, plutôt pour sortir du système bancaire, parce que soit pas le choix d'y sortir, soit par volonté politique. Celle dont je vais vous parler, elle s'inspire vraiment vivement de proches à moi qui m'ont transmis des outils plutôt originaires de Sénégal et de Guinée. C'est un système qui est plutôt répandu dans les communautés noires, diasporiques ou sur le continent. Je sais que c'est aussi des systèmes qui peuvent exister dans d'autres endroits, mais mon propos, il est afro-centré. C'est un choix et je préfère le rappeler. Du coup, c'est aussi surtout pour payer des gros frais. Ça peut être aussi bien la création d'entreprises, le retour au pays, des enterrements, des mariages. C'est vraiment, on va dire, c'est pas comme les mutuelles dont vous parlez tous les deux, où on va peut-être partager des petites sommes d'argent par mois, même si c'est déjà bien. Là, ça va être plutôt des grosses sommes d'argent sur des trimestres, des semestres, ou même parfois dans des systèmes des années. C'est aussi un moyen de lutter contre la destruction des liens communautaires relationnels et contre la destruction des liens que crée la suprématie blanche et le capitalisme. Et du coup, les motivations d'avoir créé et réfléchir à créer une tontine en non-mixité noire adoptée, ça venait des réflexions autour des conséquences matérielles qui viennent de l'adoption. Et du coup, par adoption, je parle de déplacement forcé d'enfants, parce que je parle plutôt, encore une fois, c'est vraiment très situé, mais plus d'adoption transnationale quand je parle, notamment. Et du coup, autour de aussi cette envie de collectiviser ce que mon groupe et moi qualifions de coût de l'adoption, c'est-à-dire tout ce qui est les thérapies, les processus de réacculturation. Dans le processus de réacculturation, ça peut être aussi bien payer des cours de langue, retourner dans le pays d'origine, aller au restaurant, parce que c'est aussi des processus de réacculturation. Les coûts, ça peut être aussi toutes les questions de dynamique de care. On voulait aussi une volonté d'autonomisation vis-à-vis de tous ces processus. C'est pour ça que c'est une tontine en non-mixité noire. Du coup, c'est entre nous, par nous, pour nous. Aussi une volonté de sortir des dynamiques soit individuelles, c'est-à-dire un tel donne de l'argent pour un tel, soit des dynamiques on va dire des levées de fonds autour par les cagnottes, qui sont beaucoup à des endroits du trauma porn et une forme de capitalisation. Et du coup, il faut faire les textes les plus ouin pour qu'on soit qu'on ait de l'argent. Du coup, on voulait sortir de ça. Et aussi, avant tout, c'était aussi un moyen de permettre de faire communauté
et du coup de se trouver et de se rencontrer autour d'un objet commun. Et ça se s'ancre dans les luttes noires. Je voulais le rappeler si c'était pas clair.
Merci Célé, j'en profite pour rappeler que tu donneras ton contact à la fin du plateau pour cette tontine. Je vous propose d'enchaîner sur une explication un petit peu concrète de comment se passent les collectes et les redistributions d'argent mensuellement ou sur une autre base temporelle dans vos collectifs respectifs.
Ok, bah moi je vais bien commencer. Alors du coup, dans la mutuelle de Saint-Étienne, déjà on fait une réunion mensuelle tous les 11 du mois qui nous permet de nous donner nos cotisations et faire les redistributions. Et c'est aussi un moment de discussion. Tous les échanges d'argent se font en physique, il n'y a pas du tout d'échanges qui passent par des comptes bancaires, des virements, tout ça. Du coup, chaque personne cotise tous les mois en fonction de ses revenus. Dans les revenus, on entend par salaire, chômage, RSA, dons de la famille, vente de biens et tout ça. Le seul truc qu'on ne prend pas en compte, c'est les APL. Et après, du coup, on donne un pourcentage de cotisation qui est évolutif en fonction de nos revenus. C'est-à-dire qu'entre 0 et 199 euros, on donne 5%, entre 200 et 399, 6%, entre 400 et 599, 7%, ainsi de suite, jusqu'à 15% au-dessus de 2000 euros de revenus. Pour ça, on a mis en place un tableau en ligne, parce que c'était les calculs, sinon ça prenait beaucoup de temps pendant nos réunions. Et aussi, on a mis en place un système pour les grosses sommes ponctuelles, du coup, des sommes qui sont supérieures à 2000 euros. Et là, on donne une cotisation fixe de 15% sur ces grosses sommes. Et pour que ce soit équilibré, les redistrib un peu sur les mois, en fait, on a mis en place un système de lissage, c'est-à-dire que les cotises sur une grosse somme, plutôt que de tout donner d'un coup, généralement, on donne sur 10 mois. Du coup, on donne la même somme pendant 10 mois. Voilà un peu pour les cotisations. Et ensuite, la somme de ces cotisations tous les mois, c'est divisé en deux parts égales. Une partie du coup qui est redistribuée directement et l'autre partie qui part dans une caisse de réserve ou d'urgence, peu importe comment on veut l'appeler, où tout le monde, à n'importe quel moment dans le mois, peut aller se servir dans cette caisse de la somme qu'il, elle ou elle a envie et sans justifier quoi que ce soit à n'importe qui. Voilà. Et ensuite, pour les redistributions, alors du coup, la personne qui a le moins de revenus est remontée tous les mois à la personne qui en a un peu plus. Ces deux personnes sont remontées encore au niveau de la personne qui en a un peu plus. C'est pas très clair à expliquer comme ça, mais je vais donner un exemple. Si par exemple, il y a une personne qui a zéro revenu dans le mois, et que la personne qui a les revenus au-dessus, c'est 150 euros, la personne qui a zéro, elle va être remontée à 150. Et imaginons que la troisième personne, elle est à 200, et bien ces deux personnes de 0 et 150 sont remontées à 200. Voilà. Tout ça jusqu'à ce que la caisse de distribution, elle soit vide ou quoi. Voilà, un peu le fonctionnement, en gros. Et si, moi j'en reparlerai peut-être après, par la suite, mais aussi on fait deux réunions de fonds par an qui durent la journée pour le coup, et où on discute vraiment des questions d'argent et des questions de pouvoir, de domination, tout ça.
Merci. Clémo, est-ce que tu veux expliquer le fonctionnement de la mutuelle de Paris ?
Alors, on a une redistribution mensuelle qui n'a pas de lien avec les réunions. Notre redistribution actuellement, elle se passe en ligne. Au tout début, on la faisait en physique. Et puis après, il y a eu le confinement, aussi des questions de transport, le fait que ça obligeait à venir en réunion, qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas venir en réunion, qui habitaient loin ou qui avaient d'autres choses à gérer. Donc on est passé en ligne. Ça pose des questions sur l'anonymat. De base, en fait, on avait un principe d'anonymat qui existe toujours, mais qui est en partie fictif parce que les personnes qui s'occupent de gérer la distribution ont accès du coup à l'identité des personnes, mais on tient quand même à garder ce principe d'anonymat. Donc ensuite, sur un fonctionnement vraiment très concret, donc les personnes qui donnent, en fait tout le monde donne, bon après si tu as 0 euros de revenus, de fait tu ne cotises pas, tu donnes 5% de tes revenus en enlevant toutes tes charges fixes. Donc ça peut être loyer, tes frais de transport, si tu as une personne à charge, des coûts particuliers pour X situation. Et tu donnes 0,5% de tes économies dites de sûreté au-delà de 2000 euros. Donc économie de sûreté, c'est que tu n'as pas un projet avec. Après, bien sûr, c'est le libre arbitre de chacun, chacune. Et avec tout l'argent collecté, on essaye d'atteindre des paliers. Donc le premier palier, c'est à 0 euros. Donc en fait, toutes les personnes qui sont en dessous de 0, qu'elles passent à 0. Après, le deuxième palier, c'est à 200. On en a à 400. Dans les faits, actuellement, on n'arrive même pas à atteindre 0 euros parce que notre mutuelle est déficitaire et il y a plus de personnes qui ont besoin que de personnes qui donnent. Il y avait des moments où on arrivait à être, à atteindre plus de paliers. Ensuite, on a pris en compte les dettes non urgentes en se disant que, parce que du coup, les dettes urgentes sont comptées en fait dans tout ce qui est charges fixes. Mais il y a des personnes, par exemple, avec des prêts, que ce soit bancaires ou à des individus qui doivent le rembourser. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de le prendre en compte. Et normalement, il y a une part dans nos calculs de la redistribution qui est réservée aux dettes non urgentes. De fait, comme on n'a pas d'argent, là, ça se fait pas trop. Et ensuite, on a également une caisse d'urgence qu'on a mis en place pendant le confinement. C'était en discussion avant. On se disait que ça posait beaucoup de questions et qu'on voulait pas forcément se lancer trop vite. Et comme il y a eu le confinement, en fait, ça a été le top départ en se disant, bon, là, il y a besoin. Et à ce moment-là, elle était ouverte à tout le monde, même des personnes ne faisant pas partie de la mutuelle. Et après, ça nous demandait énormément de gestion et des questions compliquées. Parce qu'en fait, y a beaucoup de personnes en soi qui auraient besoin. L'argent est illimité, etc. Donc comment tu fais? Est-ce que tu dois faire de la priorisation? Ou est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Quel montant tu dois demander? Est-ce que tu peux dire bonjour, moi j'ai besoin de 1000 euros? Du coup, on a décidé de fermer la caisse d'urgence et que ce soit uniquement réservé aux membres en faisant un système de parts par membre. Et ensuite, on a des réunions tous les deux mois et actuellement, on fait des réunions vraiment techniques, pratiques, juste pour parler du fonctionnement concret de la mutuelle. Parce qu'on a passé la première année à beaucoup faire des réunions de fonds. À un moment, c'est devenu très compliqué. Et du coup, on sentait que ça explosait un petit peu. Et pour que la mutuelle continue et que le partage d'argent en fait, soit fait, on s'est dit qu'il fallait passer sur un système moins lourd, avec des réunions qui n'aient pas lieu tous les mois, qui soient moins longues, donc pas des réunions de 5 heures, mais des réunions qui se concentrent sur des questions liées à la redistribution, même si on aborde aussi d'autres choses. Après, on a essayé aussi de mettre d'autres choses en place, comme à un moment, on avait un peu l'idée de faire un annuaire des compétences, de se partager des bons plans, en se disant, en fait, en soulevant ces questions de thunes, on soulève aussi les questions d'accès à tout un tas de ressources, pas forcément monétaires. Et ça, c'est toujours des chantiers en cours.
Avant de donner la parole à Célé, je voudrais juste repréciser, parce que je ne sais pas si c'est très clair pour les personnes qui nous écoutent, et dites-moi si je me trompe, mais ces systèmes de cotisation et de déclaration, des charges, des revenus, etc., se fait à la discrétion des personnes et en aucun cas, dans les collectifs, il me semble, il y a des contrôles sur ce qui se passe et sur ce qui est déclaré.
Oui, bien sûr.
Du coup, Célé, on t'écoute pour la tontine.
Du coup, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce système-là, cette tontine-là, en mixité choisie entre personnes noires adoptées, je l'ai aussi. L'idée m'est venue quand j'ai participé et créé une tontine avec des proches à moi. Et du coup, c'est vraiment une inspiration de ce projet-là. Du coup, parfois, je vais un peu parler des deux à la fois. Mais ce qui m'a intéressé, on va dire, de base, le plus dans ce projet, c'est pas nécessairement le partage d'argent, c'était aussi le côté festif. Quand mes proches m'ont parlé de la tontine de base, la chose c'était vraiment, mais en fait c'est une fête. Du coup, ce qui a été aussi complexe pour moi quand j'ai dû m'organiser avec mes amis et avoir les réunions, on va dire dans mon premier groupe, quand on a eu les premières réunions autour de la tontine, moi je suis arrivée avec mes codes et mes habitudes que j'ai aussi apprise dans l'autre mutuelle plutôt anarchiste dans laquelle je suis, avec vraiment mes parlons d'argent, mais comment on va faire. Et mes amis, ils étaient en mode non, mais en fait, c'est la fête, on est là pour faire la fête. Et je crois qu'au fond, au début, ça m'a trituré, ça m'a perturbé. Comment ça, l'argent, ça peut aussi être un endroit de fête? c'est pas dans ça que j'ai été élevée. Et du coup, tout ça pour dire que je voulais commencer par ça, de dire que, en fait, OK, le projet, c'est de mutualiser, c'est de cotiser, mais c'est aussi tous les 3 mois de faire la fête. Et c'est la centralité. Donc, du moins, c'est à cet endroit-là que je mets la centralité du projet et son intérêt, personnellement. Et du coup, pour les cotisations, la façon dans laquelle, enfin, comment on a réfléchi, on est sur une cotisation fixe qu'on a statuée à 20 euros, en partant du principe qu'évidemment, les personnes pouvaient faire plus, faire moins, si c'était possible. Je crois qu'on est plutôt sur une idée de donner, si c'est, on va dire, donner le plus possible, parce que aussi donner, c'est une question d'engagement et aussi de priorisation, et que dans le groupe actuellement, personne n'est sans revenu, du coup, ça nous semblait possible de le faire. Du coup, c'est 20 euros par mois, et tous les 3 mois, un partage d'argent. Et du coup, là, à cet endroit, c'est pour ça que je fais vraiment des allers-retours entre les deux groupes, mais parce que du coup, le premier groupe dont je parle, avec une tendance beaucoup moins anarchiste, et du coup, même si dans les faits, si, mais on va dire dans la réflexion, dans le premier groupe, le tirage au sort est juste un tirage au sort, sans règles précises. Tu peux mettre le nom de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment plein de... C'est un peu flou, ce qui est aussi très bien et c'est pas du tout une critique. Et du coup, dans l'autre groupe, en tant de la mutuelle, de la tontine entre noirs anarchistes adoptés, on est plutôt parti sur des systèmes et des règles dans le tirage au sort. Je pense que c'était aussi des règles dont on avait besoin pour se sécuriser et aussi pour éviter les conflits et aussi, pour se sécuriser. Mais du coup, c'est censé être un tirage au sort tous les 3 mois. Par exemple, si le nom est tiré, on n'a pas le droit de dire non, en fait, je ne veux plus de l'argent, parce qu'on ne voulait pas partir dans ce genre de dynamique-là. Je crois qu'aussi, par exemple, une règle que je trouve intéressante, c'est qu'on s'est dit que, par exemple, ce n'était pas possible de cotiser dans la tontine sans jamais mettre son nom au tirage au sort. Ça ne veut pas dire que notre projet sera tiré, mais on voulait aussi être... dans cette dynamique de tenter de créer quelque chose d'équitable. On ne voulait pas que quelqu'un puisse juste donner de l'argent sans jamais recevoir, ou au moins avoir la possibilité de recevoir, dans une volonté de tenter de lisser les dynamiques où quelqu'un a plus d'argent et du coup, juste tous les mois donne de l'argent, mais ne va jamais avoir. Et voilà.
Merci. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Self-Made de Young M.A.